Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on accueille Smaïn à l'occasion de son nouveau spectacle où il revient sur ses origines. Algérie, pays de naissance, la France, pays de reconnaissance. Smaïn débute un nouveau spectacle sur ses origines, sur sa vie. Lui, orphelin qui a embrassé les planches à 22 ans pour ne plus jamais les quitter. Un spectacle qui pourrait s'appeler autant « Appelez-moi Smaïn » que « ADN algérien de naissance ». Un spectacle qu'il souhaite mi-grave, mi-joyeux. Épidémie, confinement, fermeture des lieux de culture, les annulations des dates se sont multipliées et le spectacle au Café de la Gare à Paris, le 1er juillet, a été reporté en 2021. En attendant, Smaïn rôde son spectacle, il affine son spectacle en multipliant les salles en France. Quelques jours avant le début de ce Tour de France, Smaïn nous a rencontrés au bureau de son producteur, à deux pas de l'étoile. Dans le grand canapé, Smaïn posait pour la photographe de Sipa qui nous accompagnera pour toute cette interview. Et comme l'ambiance était plutôt bon enfant, on a commencé à parler sur la radio et le podcast.
C'est super la radio. La voix, je pense qu'elle se... elle se façonne par, avec le temps qui passe. Puis le fait de faire de la scène, ça joue beaucoup. C'est comme chanter d'ailleurs. J'ai beaucoup chanté moi quand j'étais gosse.
Chant choral, j'ai vu ça.
Ah ouais, alors là, ça on pourrait parler pendant des heures.
Mais chant religieux ou chant...
Mais varié. Chant profane et chant religieux.
D'accord.
Vous voulez que je vous fasse l'Ave Verum Corpus de Mozart?
Bah pourquoi pas.
Ave, Ave, Verum Corpus... Natum de Maria Virgine, repassum.
Et voilà, démerdez-vous au montage.
Et là, je me démerde avec le montage et je lui pose ma première question. Qu'est-ce que ce nouveau spectacle? Est-ce que c'est une recherche d'ADN, ADN algérien de naissance?
Bonne question. C'est-à-dire que c'est une retour sur moi-même. C'est-à-dire qu'on cherche toujours, quand on revient sur scène, on cherche toujours bon, à la fois l'idée, l'accroche... Et à mon âge, je me suis interrogé à savoir qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens avec des anciens sketchs ou est-ce que je fais pas un mélange ou est-ce que je... Et en fin de compte, comme avant, j'avais un peu de pudeur par rapport à ma vie, par rapport à mon enfance. Je me suis dit, pourquoi ne pas justement parler de... Et surtout en ce moment, c'est-à-dire on est pas dans l'actualité, l'éclatement du communautarisme, etc. Pourquoi ne pas raconter justement mon itinéraire? Cet enfant de Constantine, orphelin, mais je fais toujours une parenthèse quand je dis le mot orphelin. Parce qu'orphelin, ça peut susciter chez les gens une forme de tristesse, une forme de compassion. Pas du tout, justement. Une vie et une enfance très, 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 très heureuse. Donc, en faisant ce spectacle-là, je m'interroge sur la question qui je suis, d'où je viens. Donc, je cherche, comme on parle de théâtre, alors l'unité de temps, l'unité d'espace et d'action. Je me suis dit, je vais faire ma quête ADN. Je vais aller faire mon test ADN algérien de naissance, parce que je suis né en Algérie. Et en racontant à travers ce suspense que je délivre à la fin, je raconte ce petit enfant orphelin qui arrive d'Algérie, qui a épousé la France, où je dis haut et fort que je suis algérien de naissance et français de reconnaissance, que j'ai entre parenthèses rêvé ma vie, que j'ai réussi cette vie rêvée, et que j'ai besoin de la partager. Il y a deux formes de spectacle. Il y a des spectacles d'humour où on va voir un spectacle et on rit et on oublie tout. Mon rêve absolu, c'est que quand je jouerai mon spectacle, que quand les gens sortent, qu'ils s'en souviennent.
Vous avez déjà parlé sur l'Algérie, sur la France, sur votre histoire. Vous disiez en 2007, j'ai horreur du mot intégration. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phrase?
Parce que je ne me suis jamais posé cette question. Parce que comme actuellement, c'est vrai qu'on suscite un débat autour du racisme, etc., je ne me suis jamais posé la question. Aujourd'hui, on se la pose, je peux la partager, je peux comprendre, une espèce d'inquiétude, effectivement. Un jour, on m'a dit ça à l'arabe à l'école, un copain, j'ai éclaté de rire, parce que je trouvais que ça ne voulait rien dire. L'intégration, je n'ai pas le temps d'y penser.
Pourtant, vous dites que vous avez quand même souffert du rejet par certains et de ne pas être considéré par certains comme français.
Non, mais je parle professionnellement parlant. C'est-à-dire que oui, je précise, c'est que professionnellement parlant, on a un peu de tendance, un peu moins maintenant. Et là, je tire un coup de chapeau à Roche Dizem, un grand acteur qui a justement su épouser des scénarios différents, etc., etc. À l'époque, non. À l'époque, c'était très difficile. On nous enfermait dans une catégorie. Voilà. Moi, j'ai voulu en sortir. Je fais tout pour en sortir. J'ai pu en sortir aussi par des films, en faisant le Spoons, en faisant les Faux Bruits de Scapin. Mmh. Mais je suis allé me chercher. Je n'ai jamais souffert du racisme en étant enfant. Car, et je le précise justement, on vivait tous ensemble. J'habitais au 4 avenue Courteline et nous habitions tous ensemble. On habitait au dernier étage, au 8e étage. Mon père était balayeur, ma mère était femme de ménage. Et mon père allait chercher le courrier de la dame du 5e. Il y avait une grande qualité que malheureusement je ne retrouve plus aujourd'hui. C'est-à-dire cette politesse réciproque. Voilà, et j'ai vécu cette chance inouïe, c'est que j'ai vécu justement dans ce milieu de cette acceptation. Donc je n'ai jamais vraiment souffert du racisme. Et après, moins, puisqu'après j'ai honnête de le dire, c'est que le fait d'être un acteur, d'être connu, reconnu, c'est aussi un privilège. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que Smaïn, quand il se fait arrêter par les flics, et je ne me fais pas arrêter par les flics, mais quand je me fais arrêter, moi j'ai pas de problème. Parce qu'ils savent qui je suis. Mais je peux comprendre que si je n'avais pas été connu, et si j'avais été comme moi dans les années 80, quand j'allais au cabaret et que je me faisais contrôler par les flics, une fois oui, deux fois, trois fois, quatre fois, 20 fois, tu te poses des questions, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et je peux comprendre qu'on puisse avoir, allez, on va dire, une rage, une haine. Voilà, voilà, c'est montre-moi patte blanche. Une fois, oui, mais 10 fois, 20 fois, etc. Alors, je trouve qu'avec toute la politesse que je lui dois, Camilla Giordana a un peu exagéré dans son terme. Et je trouve que le mot massacre, c'est pas vraiment, c'est pas le mot le bienvenu. Je pense que une catégorie de policiers a pu être offusquée de ce terme aussi violent.
Toute votre vie professionnelle, vous avez commencé dans les années 80, c'était la marche des beurs, ça a été la gauche Mitterrand au pouvoir. Ensuite, Nicolas Sarkozy, avec la diversité au gouvernement, avec Fadela Marmara et Rachida Dati, oui.
C'est un gouvernement de droite.
C'est un gouvernement de droite.
Et à gauche, ils ne l'ont pas fait. Vous êtes exceptionnel de le dire, parce que c'est tout à fait vrai. Il a fallu attendre Sarkozy, un homme de droite, pour mettre en valeur ces minorités. Alors que Mitterrand, quand on parle de Mitterrand, on parle d'éveil des minorités, c'est assez confus.
Et aujourd'hui, dans les figures de pouvoir, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup.
Moi, je ne donne pas de patronyme à l'intelligence. S'ils sont là, c'est parce qu'avant tout, ils ont des capacités. Presque le nom m'importe. C'est comme quand on se bat pour qu'il y ait plus de blacks à la télé ou plus de ci, ça. On y est parce qu'on a du talent ou on ne l'a pas. C'est tout. Pour moi, c'est ça.
Oui, mais il y a des choix après dans le pouvoir, de montrer ou de ne pas montrer.
Oui, et alors ?
Et alors, ça reflète une société, en fait.
Mais oui.
Une société qui est uniquement à la télévision, qui est uniquement blanche. Ou uniquement noir, par exemple,
oui.
Ça ne reflèterait pas la société française aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu, parce que je pense qu'il y a des résurgences, l'attente d'un racisme, une espèce de réaction du colonialisme, etc. Il y a tout un mélange. Mais grâce à ces mouvements, en ce moment, actuellement, parfois un peu trop violents, parce que moi je suis vraiment anti-violence. Hein. Je peux comprendre qu'ils revendiquent aussi une identité, c'est-à-dire faire partie de la communauté française entièrement. Je peux le comprendre.
Vous trouvez pas ça
Moi, je me sens privilégié. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile. Moi, je suis très honoré que vous m'interviewez, mais en même temps, je sais que je suis en dehors de la masse. Être un artiste, entre parenthèses, connu, ce privilège, ce statut, c'est difficile pour moi parfois à subir. Et le rire, l'outil dont je me sers, dont Jamel se sert, dont plein d'autres, Gad et autres, etc., qui font tous partie. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les comiques, en général, font partie d'une minorité. C'est incroyable. C'est un acte de résilience. C'est-à-dire de revendiquer son identité, sortir de sa douleur, ce que j'ai fait.
Le rire lave tout.
Le rire est une bouche ouverte qui rattrape les larmes. Le rire m'a permis justement d'exprimer à la fois cette douleur, de partager, de désarmer, d'être votre copain. Hier, j'étais en train de déjeuner et il y a 3 mecs qui sont passés devant moi. Alors, j'ai fait un autographe et tout. J'ai dit, ouais, super, j'ai parlé avec eux, ils sont partis, etc. Et je disais à la personne avec qui je déjeunais, je dis, tu vois, je me sens heureux parce que je ne les connais pas, ils me connaissent et j'ai l'impression qu'ils sont de ma famille. j'ai construit ma famille. C'est-à-dire que l'oubli, cet oubli qui a été une douleur inconsciente au fond de moi, etc. etc. En ayant, je voulais être connu. Je voulais être reconnu parce que je voulais montrer d'abord patte blanche et je voulais qu'on m'aime.
Et maintenant, vous goûtez aux délices de la reconnaissance.
Oui,
là, mais c'est pas désagréable.
Mais oui, oui, bien sûr, mais elle est passée aussi par des douleurs. J'ai aussi ces derniers temps aussi des douleurs de père, parce que je dois éduquer mes enfants, que parfois c'est difficile.
Et le fait d'avoir été orphelin, c'est difficile d'être père aujourd'hui ?
C'est un peu compliqué. C'est une bonne question. Si oui, c'est compliqué. Mais en même temps, je comprends mon père adoptif. Je comprends que j'ai repris le flambeau et que je me dois être avec mon enfant. Je dois être le père qui l'a été pour moi. Je parle de mon père adoptif.
Et la transmission par rapport à l'histoire de vos parents biologiques ?
Je ne sais pas d'où je viens et je me suis construit au fur et à mesure. Mais l'anecdote, et je pense qu'elle arrive au bon moment, c'est-à-dire que moi je suis né en Algérie, j'ai été élevé pendant 2 ans dans un orphelinat qui se trouve à Constantine, qui s'appelait, au fond de l'hôpital, il y avait un endroit qui s'appelait le pavillon des enfants assistés, et je suis resté deux ans dans cet orphelinat, et puis un beau jour, je suis arrivé en France, on est en 1960, c'est un couple de maghrébins, un père algérien, kabyle, et une mère berbère du Maroc. Donc je suis entre le Maroc et l'Algérie, voilà, qui n'ayant pas d'enfant, ont décidé de recueillir un enfant. Et c'est une dame de confession juive et qui, en fin de compte, m'a ramené en France et qui m'a remis dans les bras de ma famille d'accueil, qui était musulmane. 3 religions en 2 ans. Ce qui me fait dire sur scène, 3 livres, une seule reliure.
Alors, j'ai regardé les anciennes affiches de vos spectacles.
Oui.
J'ai l'impression que c'est la première fois où on vous voit juste le menton posé sur la tête, oui. Et vous ne souriez pas.
Non,
vous n'avez pas de gadget.
Exact, exact. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la photo.
Parce qu'on ne voit pas le smile qu'on a connu
sourire,
ou qu'on
non,
a vu à la télévision, voilà, que c'était smile.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai une habitude de sourire parce que c'est une espèce d'une réactivité comme ça.
Mais c'est bien aussi d'avoir une affiche et d'avoir un comique.
Oui,
avec
mais parce que j'ai aussi l'âge, j'ai ce qu'on appelle la maturité sans la fatigue.
Ça veut dire quoi ça ? J'ai la maturité sans la fatigue.
La maturité sans la fatigue, ça veut dire que je peux encore faire une nuit d'amour en récitant du Baudelaire ou du Verlaine. Vous voyez, ça fait rire les femmes.
Non,
ouais,
mais
alors je fais une parenthèse.
Un peu,
nous sommes 3 dans cette petite pièce. Ce sont 2 femmes qui m'interviewent et je les vois éclater de rire.
Non,
eh bien, hop là, bam, pâté dans la chapeau.
On se connaît pas, mais c'est pas du tout une phrase de frimeur, ça, quand même.
De quoi ?
De dire j'ai la maturité.
Mais la maturité sans la fatigue, c'est génial. La maturité. Mais attends, vous pensez que quand on a 90 ans, on a la maturité sans la fatigue ?
Non.
Donc ça veut dire qu'il y a un âge où on est bien. Alors on va trouver un autre terme. Je suis à l'aise dans mes pompes.
Ah ben voilà, ça ne veut pas dire la même chose.
Si, ça veut dire que suis à l'aise dans mes pompes, c'est-à-dire que si.
On est 2 à penser que ce n'est pas la même chose.
Mais si, ça veut dire que je peux courir en réfléchissant où je vais.
Vous ne nous ferez pas changer d'avis.
Ah les femmes, c'est pour ça qu'on vous aime.
Comment ça s'est passé le confinement ?
Alors, ça s'est très 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 bien passé. C'est une chance inouïe. Alors, je vous raconte, mais ça va faire
rapidement. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas dans un 15 mètres carrés au 8e étage, dans une chambre de bonne.
Non, pas du tout. Non, j'ai été bloqué au Maroc. On reprend l'avion avec mon pote pour venir sur Paris, et puis il n'y a pas d'avion. On est bloqué au Maroc, etc. Et devant nous, un couple. Et le couple nous dit, écoutez, si vous voulez, venez boire un café à la maison. On a été boire un café dans leur villa, et là, on est resté 43 jours. Alors évidemment, j'ai posté des photos, les gens pensent que c'était ma villa, alors ça m'insultait, pas du tout, j'ai eu cette chance d'être enfermé et confiné dans une belle maison, très très belle maison. Et
personnes que vous connaissiez pas ?
Avec des personnes que j'en étais 4. Et ça s'est super bien passé, c'était vraiment, vraiment génial. Mais ça ne m'empêchait pas, pour être un bon papa, d'appeler ma famille tous les soirs, aussi dans l'inquiétude. Et c'est vrai qu'à la fin, ça devenait un peu trop une prison dorée. Et j'avais hâte de rentrer à la maison. Mais quand je rentre à la maison, il me reste 10 jours. Et au bout de 3 jours à la maison, ça a été compliqué.
Pourquoi ?
Bah parce que mon fils, 40 jours confiné, qui ne sortait pas, donc nervosité, ma fille, etc., etc., et ça a été insupportable. Donc, comme bon nombre de gens, moi, en tout cas pour ma part, j'ai pris mon sac et je me suis cassé. Mais là, je vous en dis un peu trop.
Bah vous savez, c'est sur un podcast, alors on n'est pas sur RTL.
En fait, on n'est pas sur RTL.
C'est bien RTL, mais il y a plus de monde que sur 20 minutes, c'est pour ça.
Donc c'est bien, on est dans l'intimité. Non, bah voilà, je fais comme bon nombre de gens, j'ai essayé de tenter de me sortir de cette situation qui a été, pour d'autres, beaucoup plus difficile à vivre.
On pense aux personnes qui ont perdu des proches et
bien
qui
sûr,
ont été malades.
Bien sûr, mais j'ai perdu aussi des proches et ça a été c'est un bouleversement. Donc, je sais pas, j'ai pas été atteint par ce maudit virus.
Donc vous allez peut-être rentrer à la maison alors.
Oui.
Et ben ça va être la fin de l'interview.
Merci à tous.
Merci à Smaïn de nous avoir reçus. Quant à Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et sur 20minutes.fr. Vous pouvez aussi nous évaluer, nous envoyer des commentaires sur Apple Podcast. Je vous dis à demain, portez-vous bien.
'On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.